Alléluia, na Yesu, na pesa yonini, na pesa yonini, na pesa yonini, na pesa yonini, ayo. Alléluia, 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 na Yesu. Zambe na ngai, zambe na yo. Zambe nanguye uzala malamu, aleluya, aleluya, aleluya na Yesu. Bon, on est dans les alléluia. Je ne sais pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais là on va faire la fête de l'eau avec Jean-Luc Mélenchon, qui est, vous savez, il est toujours en forme, hein, Jean-Luc Mélenchon. C'est un rhétoriste, comme on disait avant, c'est un orateur absolument exceptionnel. Moi, je le connais comme ça, de loin, de très loin. J'étais au Parti Socialiste, j'étais encore très jeune. Et puis surtout naïve, parce que venant du Cameroun, vous savez, on arrive et on est forcément de gauche, parce que le Parti Socialiste parlait très bien, vous savez, ces gens qui tiennent des discours sur l'humanité et l'humanisme, et vous êtes forcément subjugués quand vous revenez du Cameroun, de l'Afrique. Oh, c'était dans les années 80, et moi je découvre l'OPS dans les années 90, je crois, les années 2000, où je participe vraiment au meeting, vous voyez un peu, hein, moi, avec mon petit fric que j'avais, je pars de Lyon, mes propres frais pour les meetings. À ce moment-là, c'est François Hollande qui était le grand ponte du Parti Socialiste. Donc, nous, les petits comme ça, vraiment, je ne pensais pas au poste, je ne pensais pas à une carrière politique. On était vraiment des militants fervents. On croyait, on y croyait. Et c'était l'époque où j'avais rencontré, je suis allée aussi, bon, j'avais un petit intérêt aussi, je voulais rencontrer M. Alain Touraine, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, je faisais un livre, j'écrivais un livre, celui qui est devenu le clonage institutionnel, et que lui, il m'avait dit j'avais pu lui parler vite fait quand même, avant que les grands orateurs ne commencent, c'était un meeting à Paris sur, je ne sais plus, l'éducation, je crois, et c'était à la... Oh là là, je suis au Cameroun, là, j'oublie tout, les lieux et tout. et tout. Cette grande cité, merde, bon, le mot même, ça va me revenir. Et à la Villette, voilà. J'ai pu parler au grand sociologue, vite fait. Bon, il était très, vous voyez, réticent, le genre qui n'est pas très habitué à ce que la petite, vous voyez, les petits gens comme nous, comme ça, on vienne lui parler directement, parce que je crois qu'en temps normal, en dehors de ce genre de meeting, il n'est pas possible de les rencontrer. Donc, je lui ai brossé rapidement. Il m'a dit d'ouvrir le courrier parce qu'il avait peur d'ouvrir mon enveloppe. J'avais mis dans une grande enveloppe. Il s'est méfié un peu. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'entrace, je ne sais pas quoi, ces trucs-là très compliqués. Mais quand même, il vaut mieux se méfier parce que, avec l'âge, moi, je comprends pourquoi il s'est méfié. Je peux très bien être porteuse d'une enveloppe sans savoir ce qu'il y a dedans. Ou alors on peut m'avoir envoyé, on peut m'avoir envoyé, bon, on m'a envoyé, je peux avoir été, j'ai pu être recruté par quelques personnes qui lui veulent probablement du mal, c'est possible. Alors moi j'avais tout de suite dit, mais pourquoi il est si méfiant, non mais il avait raison. Et bon, il a lu vite fait, j'avais fait un résumé hein, vite fait, et puis il m'a dit un peu de lui parler de ça là vite fait, parce que vraiment... Il fallait faire vite les pontes arrivées pour faire les discours. Et je lui avais brossé un peu le tableau. Il m'a dit oui, mais dans. Bon, et je crois, oui, ce jour-là, il m'a dit de laisser tout, il me quittera. Effectivement, il m'a écrit et il m'avait dit qu'il fallait que j'aille plus dans le sens des oubliés. Vous voyez, plus tard, quelqu'un avait écrit Les oubliés de la République. D'aller plus dans ce sens-là, des gens qu'on a oubliés, qu'on a mis de côté, vous savez, les discriminations. Mais moi, ce qui me tenait à cœur, c'était moins l'aspect passif et revendicatif ou revanchard ou postcolonialiste et tout ce que vous voulez de l'immigration. Encore que ce n'était pas vraiment l'immigration le thème principal, mais c'était le thème de départ quand même, parce que j'avais fait une catégorisation comme ça des publics marginalisés, où j'avais mis les immigrés, bien sûr, en premier. Marginalisé, ça veut dire, dans mon esprit, fragilisé. Les femmes seules, bien sûr, les populations qui habitent les banlieues, sans aucun doute, et puis tous ceux qui sont partis très tôt, sortis très tôt du système scolaire, sont forcément marginalisés. Et pour moi, je me disais, peut-être que si on prenait le problème par l'autre bout, donc par le bout de la citoyenneté, voilà ce que j'appelais après, après la citoyenneté agissante. Peut-être qu'on pourrait, vous savez, les Français, ils n'ont pas eu leurs droits comme ça, ils sont allés les chercher. Donc c'est la même chose, peut-être. J'ai pensé que les immigrés et tous ceux qui étaient victimes comme ça de discrimination, à la fois sociale, hein, c'est pas toujours ethnique ou raciale, pouvaient emprunter ce type de démarche. Donc la citoyenneté me paraissait être une entrée assez intéressante, surtout qu'elle ouvrait sur la pédagogie. Et je suis partie sur cet angle-là et sur cette base-là. Et j'ai proposé au lycée Léonard de Vinci. Oui, voilà, parmi les catégories aussi, j'avais mis les jeunes. Et j'ai proposé, parce que les jeunes ne participaient pas à la vie publique. En fait, il y a un critère, un critérium très simple. Quand vous voulez utiliser parler des exclusions et tout ce que vous voulez, c'est la participation, le taux de participation à la vie publique. Déjà participation, on ne va pas aller à l'élection, déjà participation. Et comme je faisais ces meetings, ces réunions de socialistes et tout, par-ci, par-là, je ne sais même pas, je prenais l'argent, mais j'arrivais à y aller. Et comme je faisais ces déplacements, je voyais très bien comment on va dire, une sorte de la cartographie ou la démographie du public qui était présent. Et je voyais très bien ce qui manque, ce qui n'était presque jamais là, que ce soit au niveau local, vraiment, moi j'étais à Villefontaine, dans un coin perdu, ou dans des coins un peu plus sophistiqués, comme une fois on allait du côté de Chambéry, à la frontière avec l'Italie, je crois, j'ai oublié le nom de la ville aussi, oula, ça fait vieux ça. Et on se promenait pas mal. Et là, je vois ça, et c'est pas le parti qui payait, hein, c'était vraiment la foi. J'allais par la foi parce que vous savez, eux tous qui font les discours, il y a une discrimination dans les partis. Ceux qui viennent faire les discours, ils payent rien. Ceux qui sont dans le parti, ils payent rien. C'est tout pris en charge par le parti. C'est vous les militants qui payez et on vous donne que dalle. Y compris à l'époque, moi j'étais quand même jeune. Y a pas. Vous venez ou vous venez pas. Donc déjà, c'est pénalisant pour se déplacer pour les jeunes. Donc il fallait. Ça les fatiguait. Ça veut dire donc qu'il fallait animer la passion auprès de ces publics-là. Et pour générer cette passion, pourquoi ne pas passer par le feu de la connaissance? Donc, apprentissage de la citoyenneté, j'ai proposé le projet éducation à la citoyenneté. C'était aussi une éducation populaire parce que ça concernait aussi les familles sur un territoire défavorisé en plus, parce que le territoire aussi fait partie des facteurs discriminants, un territoire classé politique de la ville. Finalement, c'est passé. Bon, j'ai fait une année là-bas de cette action citoyenne. Et une année et demie, on va dire, parce que la deuxième année, il y a eu des problèmes énormes qui sont venus d'où? Pardon, des enseignants du lycée, et puis le nouveau proviseur m'a pris en grippe, je ne sais pas pourquoi, sur la fin, sur le tard, parce que justement les enseignants n'étaient pas d'accord, tout simplement parce que c'est moi, hein, l'immigré noir, De surcroît, moi, j'étais plus diplômé qu'eux, ça c'est insupportable. Qui venait faire ça aux enfants du lycée, un hein, lycée, vous voyez, il y avait peut-être des immigrés, mais des Français. Donc pour eux, c'était un peu intolérable. Et d'ailleurs, au lycée, j'ai vu qu'il y avait un ou deux Arabes, excusez-moi du terme, hein, c'est les Maghrébins, on les appelle là-bas les Arabes, qui traînaient par là, mais tout le personnel enseignant est blanc. Moi, ils m'ont pas trop aimé. D'abord parce que j'ai pas été à l'UFM, hein, ni à la fait la grègue à l'école normale. Je suis tout simplement docteur. J'étais à l'université à Lyon, et puis c'est la région qui m'envoie. C'est pas l'éducation nationale directement. Donc c'est un scandale pour eux, quelque chose de tout à fait inacceptable. Vous voyez comment ça discrimine, hein? Même les enseignants font de la discrimination. Il y a même un qui rigolait tout le temps en salle des profs et qui disait, oh, moi, j'aime pas les enfants des autres. C'était une façon de dire quand on lui disait, mais ils ont été comment aujourd'hui, les gamins? Ah, vous savez, moi, je supporte pas les enfants des autres. Et tout le monde rigolait. Moi, ça me faisait pas rire parce que c'est vrai, c'était une boutade, mais bon, ça va, ça va. Moi, je suis, vous voyez très bien, hein, vous sentez à ma voix. Moi, je suis dans l'enthousiasme. Et enthousiaste d'écouter Jean-Luc Mélenchon, que j'ai d'abord écouté à l'Assemblée nationale, où il faisait le contrepoint aux nouvelles mesures du gouvernement sur le Covid. Et là, il a fait, moi je suis depuis Yaoundé, je suis facilement, parce que ça passait dans les réseaux sociaux, et c'était une forme de, on va dire, c'est bizarre. Bon, c'est quelque chose de nouveau comme ça. Il nous recevait via les médias sociaux et puis nous, on était là, on l'écoutait. C'était très bien. Et il a parlé de l'eau, il a annoncé l'eau en réalité augmentée. Bon, déjà le titre, ça fait slogan, mais en même temps, c'est pas mal, c'est pas mal la réalité augmentée de l'eau. Parce qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce que l'eau a réalité augmentée? On ne voit pas très bien, mais justement, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'augmenté, effectivement, dans la réflexion. Et en suivant donc ce. Ah, j'oublie comment on peut appeler ça. C'est pas une communication, mais on va appeler ça comme ça. C'est pas en cours, mais ça y ressemblait vraiment parce qu'il avait la posture de l'enseignant qui nous parle. Et donc, il est, je veux dire, moi j'y pensais tout de suite dans la démarche de Jean-Luc Mélenchon, même déjà depuis l'Assemblée nationale où il avait fait un débat, enfin un débat, une communication très, très, très pointue et pédagogique. Là, je me suis dit, j'ai pensé à un verset biblique, Osée 4-6. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, je me dis, mais c'était justement ça le constat que j'avais fait. J'étais parti de l'idée que nous ne pouvons pas nous comprendre si nous n'avons pas un minimum de langage commun et de connaissances communes. Sinon, c'est ce qui se passe en ce moment. Les politiques nous ont demandé de nous dessaisir de la question politique, c'est-à-dire du débat, de la réflexion et tout. Eux, ils s'en occupent. Et puis nous, si on participe, c'est beaucoup, mais surtout, on doit applaudir un spectateur. Alors, Jean-Luc Mélenchon fait ce constat et la question qui se pose, qu'il pose, enfin, qui se pose pas seulement à lui, c'est comment remédier à ce manque de connaissances. Parce que ça permet aussi de sauver le peuple de lui-même, de son propre abrutissement, ou de son abrutissement volontaire, ou de son éloignement de la connaissance. Et par ce biais-là, nous sauver aussi nous-mêmes en tant que peuple de l'humanité. Donc, l'une des conditions, donc, comment je vais dire, de cette défiance du peuple, c'est justement parce que ben on l'a mis à l'écart, on l'a disqualifié, ça c'était toujours le mot, on l'a disqualifié et on lui offre toujours de l'entertainment pour qu'il aille voir ailleurs pendant que les autres réfléchissent. Bon, le point de départ, enfin le point de départ, ça c'est Tout ce qui entoure, je vais pas dire la philosophie, mais c'est déjà cela, l'idée de base dans le projet, le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et vous allez voir après comment il déroule ça. Il s'appuie sur un père qui est, il fait référence, René Dumont, 1974. Où, voilà, il rappelle qu'il avait dit, mais je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit ou si c'est lui qui fait le constat. Alors, bon, on va toujours dire que quand vous citez quelqu'un, c'est que vous êtes lui et lui, c'est vous. Que notre corps, le corps humain, est à 75% constitué d'eau pour un nourrisson et à 60% pour un adulte. Donc, à ce niveau-là, ça crée déjà pour moi une sorte, même pour lui, hein, c'est vrai qu'après il y a une référence à Alice au pays des merveilles et une autre à Matrix. Bon, moi je vais parler là de ce côté-là parce que je ne veux pas me perdre, il y a un fil conducteur quand même. Et il y a dans cette, je vais dire, cette affirmation, comme ça, enfin, dans ce rappel déjà du fait que nous sommes constitués à 60% d'eau. Un rappel à la vie utérine, pardon, et aussi au fait que, je vais dire qu'il y aurait un lien métaphysique comme ça entre nous, l'être humain, et l'eau, d'autant plus que certains disent que la vie humaine d'ailleurs serait apparue par les fonds sous-marins. Enfin, elle a vraiment, c'est quelque chose qui est parti de l'eau et puis qui a évolué, qui a donné un peu la forme humaine. Ça, c'est la version, c'est pas darwinien, c'est pas religieux, mais ça veut dire quand même qu'il y a un lien métaphysique très fort entre l'être humain et l'eau. Et donc là, en réalité augmentée, c'est probablement en référence à l'homme augmenté sur lequel Google fait des recherches sur l'homme augmenté, c'est-à-dire qu'on travaillerait beaucoup sur son cerveau. Et là, bon, voilà, là, il faut du cerveau là, pour suivre maintenant Jean-Luc Mélenchon, qui se place, moi je vais appeler ça le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée, c'était vraiment le fil d'airain, si on peut dire comme ça, de cette communication. Et Jean-Luc Mélenchon se pose donc en Prométhée. Il est allé chercher la connaissance pour nous, il nous l'apporte. Et effectivement, quand on parle de la connaissance, on parle du feu de la connaissance que ça apporte. Et surtout, on va penser à la transgression que ça apporte aussi, parce que vous savez, Prométhée allait voler ce feu-là. Donc, il a effectué un acte transgressif qui lui a valu la punition, mais là, je crois qu'il n'y aura pas de punition parce que c'est pour le bien de l'humanité. Et la transgression dont il est question ici, c'est d'abord une transgression au niveau de la méthode. La méthode de Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment on pense au discours de la méthode. On est français et on pense au cartésianisme. Donc il a apporté le cartésianisme, là, le cogito, et il a dit, c'était vraiment tout ce qui se conçoit très bien s'énonce clairement, mais ça, ce n'est plus le cogito, mais c'est vraiment ça. Ce mythe-là va donc faire que nous allons, il veut que nous sachions plus que nos pères n'en savent, et donc nous allons, il va nous dire beaucoup de choses, et parmi les choses qu'il énumère, il nous dit et il nous apprend des choses. Là, je vais vous faire un lien, après vous irez vous-même écouter l'émission. Hein. Moi, je vous donne comme ça l'envie d'aller écouter ça sur YouTube. Donc, il nous parle du cycle de l'eau. Il nous parle du qui est synthétisé par ce qu'on appelle le tapis roulant dans les fonds marins. Je me souviens que Monsieur Allègre, je ne sais pas s'il est devenu le grand scientifique, qui a d'ailleurs été ministre de l'Éducation nationale. C'est pas un hasard, vous voyez. Les choses se répondent en écho. Et un grand scientifique qui avait, à un moment donné, il faisait ces choses-là. J'avais suivi un documentaire à la télé sur ce tapis roulant. Et il nous disait aussi qu'il fallait vraiment qu'on cherche à comprendre le cycle de l'eau et que c'est parce qu'on ne comprend pas le cycle de l'eau que nous sommes comme ça en déshérence, à la fois par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la pollution, par rapport aux températures, par rapport à beaucoup de choses, il a expliqué. Et peut-être que Jean-Luc Mélenchon a oublié de le citer, mais je lui dis ça comme ça, je souffre comme ça, à son équipe, pas lui. Et donc, il a parlé du réchauffement climatique dans ce reportage que moi j'avais vu, et c'était vraiment très bien expliqué. Ça fait un moment, mais c'est vraiment initié par Claude Allègre, qui avait parlé du mammouth de l'éducation nationale, parce que ce mammouth, figurez-vous, quand j'apporte ce projet, ce mammouth, c'est que on apprend tout aux enfants, sauf ce qu'il faut leur apprendre, le genre de choses dont je vous parle en ce moment. Alors, il nous fait part de la fonte des pôles, bon, c'est des glaciers dans les pôles, et il nous rappelle qu'il y a une présence française dans les pôles, et la France est une puissance arctique. Et elle ne fait pas toujours ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire le rappeler et s'imposer là-bas. Elle n'est pas vraiment présente, bien que monsieur, il rappelle ça, le Premier ministre Michel Rocard, ait fait du bon travail là-dessus. Il nous parle donc des océans, la montée et la baisse des eaux. Bon, c'est pas Moïse, hein, mais vous verrez. Il parle des grands fonds, qui représente 30% de réserves mondiales d'hydrocarbures. Les grands fonds, c'est ce qu'il y a 6 km en dessous, au-dessus de l'eau, où on va perforer. Et ça, vous verrez très bien après dans la programmation ce qu'il compte faire là-dessus. Il nous indique qu'il y a le problème, la question des forêts, dont il faudrait tenir compte, parce que c'est un grand régulateur du climat, puisque ces forêts permettent de retenir l'eau, et ils apportent beaucoup de l'humidité, beaucoup d'humidité, pardon. Il nous parle de la question de la pollution du plastique et qui menace 20 villes, donc 10 sur la mer Méditerranée, qui en fait, il nous rappelle, est un grand lac, mais donc l'écosystème est très fragile. Il nous parle, oh là là, c'est très riche, il nous parle. De quoi? Du tarissement des cours d'eau. Voilà, en France, non seulement il y a des cours d'eau qui ont vraiment tari, mais 90% des cours d'eau en France sont pollués. Alors, c'est un désastre. Et comment dépolluer ça? On verra tout de suite ce qui donne au niveau de l'action pure, parce que là, il faut d'abord faire l'état des lieux. Alors, quels sont les secteurs impactés par l'eau directement? Il va nous parler de l'impact sur l'énergie, c'est-à-dire sur les centrales nucléaires qui ont besoin de beaucoup d'eau dans le processus de refroidissement. C'est un souci. Si de l'autre côté, le niveau d'eau baisse et que des fleuves tarissent et que les centrales ont besoin de cette eau-là pour produire l'énergie, les milieux impactés aussi sont l'agriculture et l'usage des pesticides, qui en plus ont, eux, les pesticides, un impact sur l'augmentation des cancers et la baisse de la fertilité des hommes. Il nous parle aussi comment je peux dire, de ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire en fait, tous ces impacts-là, l'eau qui impacte l'énergie, qui a un impact sur l'agriculture, surtout cette agriculture dont on dit productiviste, hein, qui consomme beaucoup les sols et les fragilise, tout cela, et qui a un impact sur la santé, lesquels pesticides aussi font fuir les animaux. Ces pesticides raccourcissent la distance qu'il y avait entre l'animal et l'homme. L'animal se rapproche de plus en plus des habitats pour trouver à manger, parce que les pesticides essayent de ravager aussi son espace naturel où il trouve son alimentation. Et ça, ce rapprochement de l'animal et des hommes n'est pas bon, parce que ça peut créer donc justement des transferts de virus, et on peut arriver aux pandémies. C'est vraiment la réalité augmentée. Ça, c'est le constat. Alors, sur ce constat, vous voyez, quand on est déjà seulement dans le constat, on se dit, Oh, il faut changer tout cela. Et c'est ça son message. L'eau est au cœur du projet et du programme de la France insoumise parce que elle permet de penser d'autres équilibres, enfin de grands équilibres, les équilibres vraiment qui étaient nécessaires depuis le temps, et de proposer un autre projet de société. Et puis pour moi, tout comme ça, moi, en écoutant tout ça, je pouvais pas m'empêcher de voir que l'eau ici a un impact. Quand on parle de l'énergie, on parle du feu. L'eau, déjà, quand on parle de l'eau, des océans et tout, on voit bien le lien avec la terre et puis la pollution avec l'air. Donc, à partir de l'eau, vous retrouvez les quatre autres éléments dont l'homme a besoin de façon impérieuse pour sa survie, j'allais dire, pas seulement pour sa nourriture. Alors, sur ces grands équilibres-là, parce que quand on parle de Prométhée, il y a deux définitions. La définition, effectivement, de la connaissance, de l'élève qui dépasse le maître, de l'enfant qui dépasse le père et qui en sait plus. Mais il y a aussi la question de la responsabilité lorsqu'on a ce savoir. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce savoir? Il faut donc trouver, un terme, je vais pas dire de gouvernance, dans la pratique. Les grands équilibres, et c'est ça qui fonde l'écologie, entre l'environnement, l'économique et le social. Alors, c'est la deuxième partie de l'émission de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si cette émission passe, comment elle passera, si vous aurez une première partie, une deuxième partie, mais là, c'est la suite. Et là, nous rentrons dans le, je n'ai pas dit le vif du sujet, mais dans le programme. Le programme, qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon propose donc pour nous sortir, enfin pour nous proposer une réalité augmentée, c'est-à-dire pour que nous passions dans une autre dimension avec en fond de toile cette idée que l'écologie, c'est vraiment un projet pour l'humanité. Alors, il commence par dire, au niveau de là, on parle maintenant de la responsabilité du politique. Le fil conducteur de sa démarche, telle qu'il la présente, c'est qu'il faut protéger l'eau. Ça veut dire qu'il faut la valoriser comme richesse, hein, et il faut l'utiliser intelligemment, cette ressource. C'est pas, oui, moi j'ai dit richesse, mais c'est une ressource, mais finalement c'est une richesse. Donc concrètement, on va donc aller voir comment il va faire respecter ces grands équilibres. Il y a une règle verte, il appelle cela la règle verte. On ne prend pas à la nature ce qu'on ne peut pas lui restituer. Ça, c'est la première règle. Enfin, c'est la règle verte. On ne prend pas ce qu'on ne peut pas lui restituer. Et à côté de cela, pour mieux préciser ce que ça veut dire, c'est qu'il faut créer une harmonie entre les êtres humains et la nature. Et entre les êtres humains, je veux dire, entre les êtres humains, entre eux, si je peux dire comme cela. D'une part, les êtres humains entre eux, c'est-à-dire un peu s'aimer, aimer l'autre comme son prochain. Et une autre harmonie entre les êtres humains et la nature. Alors, ça veut dire aussi, si on rentre encore dans un... si on va plus précis encore, qu'il faut respecter, il faut rechercher une concordance, de la concordance dans les cycles de prélèvement humain et ceux du renouvellement de la nature. En fait, il faut que ces cycles, ils ne peuvent pas coïncider, puisque il parle des fois où il y a le cycle, le renouvellement peut prendre 60 ans, et donc on ne peut pas attendre 60 ans pour faire certaines choses, mais il faut qu'il y ait une concordance. Au fur et à mesure qu'on retire, on redonne à la nature. Si on prend de l'eau, on en reverse de l'eau. On redonne de l'eau à ce cours d'eau. Donc, de façon, en termes d'action, ça veut dire interrompre l'énergie nucléaire pour la remplacer par l'énergie mécanique. Il a évoqué le cas des moulins qui fonctionnaient très bien avant et qui fonctionnent avec de l'eau, qui ont besoin d'eau. Il a évoqué, bon, ce qu'on appelle les hydroliennes, je ne sais pas trop c'est quoi, mais vous chercherez. Donc, un, on va vers une sortie progressive du nucléaire. Pensez à cela. de sortir des stratégies productivistes basées donc sur, voyez, cette agriculture comme ça, extensive, et en plus, sur un plan économique, puisque là, on va dans les équilibres hein, entre l'environnement, l'économique et le social. Au niveau économique, ça veut dire, si on sort des stratégies productivistes, ça veut dire qu'on sort d'une logique basée, enfin, d'une réflexion basée sur la croissance. Qui consiste à distribuer de façon un peu inégale les produits de la croissance, mais ça ne donne pas parce que ça n'a pas épuisé la question sociale et ni la question du travail. Et puis l'agriculture, de son côté, elle épuise les sols carrément. Donc il y a, et puis, bon, je suis pas ici en Afrique, comme j'ai un pied dans cette agriculture en ce moment, un pied dedans, un pied dehors, je note qu'il y a beaucoup d'agriculture sauvage dans les marécages, et ça vous produit du maïs qui n'a pas de goût, ça vous produit des gombos qui n'ont pas de goût, du piment qui n'a pas de goût, je parle des produits locaux, et puis surtout, ça épuise l'eau, ça épuise l'eau, sans pouvoir la renouveler. Et quand en plus à côté on a les coupes hein, franches de bois sauvage, comme je l'ai déjà dit ici, au point que je crois c'est le FMI, je sais pas, il y a un organisme là qui ne fait pas confiance à la traçabilité du bois par les Africains. C'est normal, c'est normal, parce que moi j'ai vu ça, je me suis dit, ben, ils font même pas déjà un recensement dans les forêts, au moins des arbres remarquables comme on le fait en France, pour déjà savoir quel est leur stock de façon peut-être approximative. Mais les eaux et forêts sont là, c'est leur travail, ils sont dans les bureaux, ils font quoi dans les bureaux, je sais pas. Bon, donc il y a cette question-là, l'épuisement des sols et puis l'épuisement des marécages, ça c'est pour l'Afrique, j'ai juste ajouté un appendice, mais vous comprenez de quoi il est question ici. Mais tout ça c'est pour la croissance et la maximalisation des profits, c'est ce qui va donc permettre de rebondir ou d'attaquer le mode de production capitaliste. Mais avant cela, il nous dit qu'il faut vraiment lutter. Il va lutter. Il faut lutter contre la pollution du plastique. Et cette lutte est possible parce qu'un paysan lui a dit qu'on pouvait, il suffisait de planter une bande herbeuse, une forme de haie, et qui va tout de suite, dont les racines vont retenir les plastiques et les empêcher d'aller polluer les eaux. Des solutions faciles. Il a parlé de. Bon, alors sur l'agriculture, là, zéro pesticide pour lui, zéro pollution pour lui, zéro glyphosate pour lui. Donc, la question ne se pose même pas. Pour le bois, interdiction de coupe rase, mais en même temps, on peut utiliser le bois pour réfléchir à un autre mode d'habitat que le ciment, vous voyez, et le béton qui consomme beaucoup d'eau et qui nécessite aussi, a besoin de beaucoup de sable, et qui font que les littoraux, je sais pas si on dit comme ça aussi, le littoral aussi s'épuise. Ça, c'est des actions directes. Pas de privatisation des barrages. Il y a 200 barrages en France et il semblerait qu'il y ait un projet de privatisation de ces barrages. Il dit non. Pas d'exploitation des fonds marins ou je sais pas quoi dans l'Arctique. Les actions sont concrètes et coup de poing. Et si vous voulez, ce qui est vraiment, comment dirais-je, ce qu'il faut suivre, c'est la ligne qui relie l'économique, le social, l'environnement, l'économie et le social. Il faut vraiment la suivre. Et aussi l'administration. Quand on, ça, il le rappelle. Qu'il va falloir, par exemple, réfléchir à ce qu'il appelle, il propose directement qu'il faut aller vers la collectivisation de l'eau. Pourquoi? Là encore, des chiffres impressionnants. 9 pays possèdent 60% d'eau douce. Dans le monde, hein, 9 pays possèdent 60% d'eau douce. Enfin, voilà, partagé. En Guadeloupe, un tiers de la population n'a pas accès à l'eau potable. Vous vous rendez compte? Pareil en Réunion et en Mayotte. Israël dépend de la Cisjordanie et du plateau du Golan pour son approvisionnement en eau. Vous comprenez bien pourquoi Israël veut annexer le plateau du Golan. L'Égypte et le Soudan, pour les deux grands pays là, se partageaient le Nil tranquillement. Et là, il y a l'Éthiopie qui vient changer la donne parce qu'elle veut faire un barrage. Elle a besoin d'eau pour ses besoins en développement. Et puis, bon, elle a besoin d'eau. Et ça va créer des déséquilibres. Et je crois que récemment, ils se sont vus tous les trois et il n'y a pas eu d'accord. Donc, il y a un stress hydrique, il appelle ça comme ça, un stress hydrique ou une détresse hydrique qui fait que il va vraiment falloir se partager cette eau et donc de réfléchir à la question de l'eau aussi au niveau international. Et il va donc parler de la collectivisation de cette eau, parce que nationalisation ne veut plus rien dire puisque ça devient vraiment une question internationale. Il a aussi évoqué le cas du Mékong, qui va principalement à 95% à la Chine. Bah, il y a les autres pays, le Vietnam et tout ça, qui attendent aussi de l'eau. Donc la collectivisation de l'eau. On peut dire c'est le collectivisme. Non, 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 c'est vraiment le mot qui va, parce qu'il ne peut pas dire nationalisation. On ne peut pas nationaliser. Vous avez vu tous les points, il a cité que quelques-uns, où il y aura ce stress hydrique. On a parlé aussi de la Turquie, il a évoqué la Turquie. Donc, si on va vite, hein, parce que moi aussi je me suis fait pédagogue, parce que c'est vraiment des sujets de l'avenir, c'est un sujet capital très important. Au niveau national, qu'est-ce que cette collectivisation de l'eau peut donner dans le découpage territorial et la façon de voir la région? Donc, il ne peut pas appeler ça aussi la nationalisation parce que c'est plutôt un problème qui est du ressort des régions. Il a critiqué les 13 régions qui sont un peu coupées à la hache. Donc, ça peut pas, ça n'a pas de sens et justement, ça manque de dynamisme, tout cela. Pour donc amener donc à son équilibre, pas son équilibre, à l'équilibre dont on rêve tous de l'eau augmentée, puisqu'il dit que la terre est notre patrie commune et la région aussi. Donc il va falloir redécouper, penser à un redécoupage de territoire, redécoupage régional à partir des grands bassins versants. Bah, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais vous comprenez. C'est le sens qu'il faut suivre, hein. Les grands bassins versants, et parce qu'avec lui, parce que pour lui, ce redécoupage va donner naissance à de nouvelles régions qui auront du sens, et ça va avoir un impact sur l'emploi, bien sûr, compte tenu de tout ce qu'il a énuméré auparavant, qui vont générer l'emploi. Et là, il fait donc il intervenir la nouvelle génération des jeunes ingénieurs qui vont avoir des défis à relever, tous les défis qu'il a énumérés. Et il a confiance, parce que d'abord, il y a un génie, une compétence française dans le domaine. Et ensuite, il faut aussi confiance à l'enthousiasme de la recherche. Tout à l'heure, on parlait de M. Claude Allègre, qui est dans un grand centre de recherche. J'ai oublié aussi lequel, mais vous savez bien lequel. Et donc, l'enthousiasme, c'est ce qui apporte ce qu'on appelle le cercle vertueux. Effectivement, si Paris s'est construit avec ce métro fabuleux que le monde entier lui envie, bah, c'est bien parce qu'aussi il y avait cet enthousiasme-là des ingénieurs. Donc, vraiment, on peut pas. Et vraiment la créativité, parce que lui, il en profite pour dire qu'on a donné des crédits impôts aux recherches, là, pour la baisse d'impôts. Non seulement ils n'ont rien recherché. Bon, voilà, ça a été la maximalisation. Je sais pas comment on dit, maximisation. Voilà, on maximise, hein, les profits et puis on compresse sec. Donc là, il n'y aura plus tout cela avec lui. Ouf, on finit par la critique du capitalisme. Là, franchement, pour la critique du capitalisme, vous irez voir Marx, hein, et il est pas allé le voir, mais on s'est dit que ce modèle de société qu'il propose est vraiment anticapitaliste. Ou s'il n'est pas anticapitaliste, il remet le capitalisme complètement en cause, en question, et en tout cas, il en montre toutes les limites à partir d'un seul élément qui s'appelle l'eau. et qui impacte toute la politique de demain, parce que ça, ce sont des sujets qui se discutent un peu partout. Bon, évidemment, on ne va pas parler du cas de l'Afrique pour dire qu'il y aurait un problème sur le dérèglement climatique qui serait propre à l'Afrique. C'est toutes ces choses-là, les mêmes données s'appliquent un peu partout. Et c'est ce qu'il y a de bien dans l'écologie, parce que ça regarde les choses en termes de développement durable. Il n'a pas prononcé le mot magique. Et ce développement durable dit qu'il faut une solidarité aussi entre les peuples, une solidarité spatiale et une solidarité dans le temps entre les générations. C'est ça la responsabilité du politique. Mais il faut bien passer par un axe. Alors il en a pris quatre, il a parlé de la démocratie déjà, il l'a rappelé, et il a parlé cette fois-ci de l'eau, la prochaine fois c'est la question sociale, et puis il finira par la question internationale. Je crois que tout se tient. Moi pour le moment je suis mélenchoniste, hein. J'ai toujours été, si on dit la France est soumise, déjà je suis d'accord. Si on dit la France comme lui, de la connaissance, qui renoue avec les lumières, je suis deux fois d'accord. Et si on dit qu'on est dans l'enthousiasme, on va pas dire l'optimisme, oui, pourquoi pas, de Voltaire, je suis d'accord. Et si on dit que tout cela, ça peut donner lieu à des pratiques qui peuvent être exportables, modélisables, oui, je suis d'accord. Oh, pourquoi pas? Et si on dit en plus qu'il faut faire des expérimentations pour voir ce qui marche et qui ne marche pas, parce que jusqu'à présent, on ne peut même pas expérimenter, c'est interdit par le système, comme on dit. Donc ça ne peut pas non plus marcher. Il faut vraiment aller suivre cette émission, ne serait-ce que pour votre propre connaissance, hein, des choses que vous pouvez approfondir à votre guise. Donc Mélenchon, c'est le député, comme il dit, du peuple humain. L'humanisme revisité par Mélenchon, c'est pas mal. Sur un autre plan, comme ça, vite fait, c'est vraiment la conclusion. Sur une émission parallèle, on lui a demandé ce qu'il pensait de la réforme de l'ENA par le président Macron, qui parle d'un institut du service public. Moi, j'ai trouvé le mot institut du service public très bien, mais peut-être aussi quand on nous apprend à créer les entreprises, à créer une entreprise, il y a le nom de l'entreprise et puis il y a ce que l'entreprise va faire. C'est vrai que l'ENA faisait déjà, c'était déjà un institut du service public quelque part. Mais c'est vrai que là, pour dire vrai, service public, ça parle plus, ça fait moins élitiste parce que l'école nationale d'administration, c'est comme si vraiment, voilà, le côté élitiste, c'est peut-être la perception, mais c'est peut-être les mots, mais le côté élitiste disparaît, ça devient un institut, hein, c'est pas mal. Et ce qui est bien aussi, c'est l'exigence. Et ça, on avait noté comment j'ai proposé. Soit c'est dans le clonage institutionnel, ce livre qu'il fallait vraiment appeler autrement, La société des rentiers, c'était peut-être mieux finalement, ou autre chose. Mais j'ai proposé, j'ai dit, mais ces gens qui dirigent, parce qu'on a vu leur parcours, on avait vu par exemple que les parcours des gens qui font les prépas et tout, c'est la plupart des gens qui étaient probablement dans les écoles catholiques déjà, pas beaucoup de contact avec le grand, enfin, vous voyez, la populace, si je peux dire comme ça. Ils connaissent pas le peuple et ils veulent diriger le peuple par la suite. C'est comme ces magistrats aussi, et d'ailleurs c'est la même école, qui sortent, non, là, ici au Cameroun, oui, mais en France, quoi qu'il y ait une école de la magistrature, c'est terrible, faut réformer là-bas, parce qu'ils sortent là-bas de l'école, ils viennent juger des affaires, ils n'ont aucune expérience de la vie, ils peuvent rien y comprendre, rien du tout. Alors, c'est bien que, quand même, bon, évidemment, monsieur Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était la politicaille, hein. Bon, parce que, effectivement, ça vient trop tard. Pourquoi maintenant? À la veille des élections, c'est trop tard, on avait tout le temps de faire ça depuis le début du mandat. Alors quand il fait ça maintenant, bah, ça fait. Bon. Mais c'est vrai que l'idée que tous ceux qui sortent de l'ENAM aillent faire des stages, hein, dans l'espace de la décentralisation, dans les communes, les régions, les départements, ça c'est une idée excellente. Moi, j'achète ça parce que c'est là où ils vont se faire. Bon, évidemment, il y a un chercheur qui en parlant à la mixité sociale, parce qu'on n'invente pas aussi ça, hein, la mixité, c'est un peu la mixité sociale au niveau administratif, avait dit que la proximité spatiale comment je dis ça, ne supprime pas la distance sociale. Oui, d'accord, mais ça fait rien. On vient, on regarde. Même si on regarde un observateur, mais c'est déjà bien de connaître avant d'aller dans les ministères et tous ces grands bureaux-là. Et dernier point quand même, sur lequel on ne peut pas couper, c'est le débat sur l'euthanasie. L'euthanasie qui est revenu. On lui a posé la question aussi à Jean-Luc Mélenchon, parce que apparemment, moi, j'ai pas vraiment suivi ça, mais j'ai suivi là. Vous savez, les réseaux sociaux, ça n'a pas que du mauvais. Hein. Surtout quand vous êtes à l'étranger. On lui a posé la question sur ce qu'il pensait de la fin de vie. Bon, on lui a posé la question, mais il paraît qu'il avait déjà répondu. Et Monsieur Houellebecq a critiqué sa réponse en disant qu'il n'était pas d'accord. Parce que M. Mélenchon, monsieur le député, candidat à la présidence française, candidat très intéressant, parce qu'au moins avec lui on réfléchit, hein, et puis il n'y a pas de sujet tabou. Voilà. Et avec lui on est déjà sûr qu'il y aura la liberté d'expression et le débat. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Et pas seulement une réflexion pour, pas, je veux dire, liberté de réflexion, oui, liberté de penser, je voulais dire. Allusion à qui c'est qui a dit de ne pas supprimer la liberté de penser, là, de qui a fait une chanson et tout, moi j'oublie tout ici, hein, la mémoire qui flanche, je me souviens plus de rien. Et Jean-Luc Mélenchon, sérieusement, Jean-Luc Mélenchon a parlé de la fin de vie. Sa réponse, apparemment, aurait été que, enfin, il était d'accord. Il était d'accord, parce que là, il a précisé, il faudrait un certain âge, il dit qu'à un certain âge, il ne vous reste plus rien que votre dignité. Et cette dignité-là, ça s'exprime dans la maîtrise de soi, y compris dans la maîtrise, de ce qu'on souhaite comme, fin de vie. Et donc lui, il voit pas en quoi c'est indigne. Bon, lui il dit que par contre, ce qu'il faudrait voir, c'est indigne quand même de mourir seul. Donc ça pose un peu en filigrane la question de la solitude, la question de l'abandon et la question de l'inutilité de l'être humain à un certain moment, qui est, vous savez, parfois, on laisse. Ben là, vous savez, hein, où beaucoup de gens sont morts de Covid dans les maisons de retraite. Alors, la valeur de la vie, qu'est-ce que c'est? Alors, lui, Mélenchon, lui, s'est dit qu'il était stoïcien. Voilà, c'est un stoïcien, ça veut dire que pas trop de place pour les émotions, hein, c'est-à-dire il prend comme ça vient. Mais là, quand même, il pose des vraies questions et Houellebecq est indigné de voir que non, 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 on ne peut pas avoir ce type de réponse froide dans stoïque devant la fin de vie. Il faut laisser la vie s'achever toute seule. C'est vrai que il y a des questions métaphysiques. On a commencé par l'eau et nous qui se posent. Est-ce que nous sommes propriétaires de notre corps au point de lui donner la mort? Bon, l'euthanasie, absolument, on va aussi parler de la question du suicide. C'est une question parce que ça nous renvoie à notre identité, à la civilisation chrétienne qui a interdit de se donner la mort. Tu ne tueras point. Et c'est une question, effectivement, si on n'est pas chrétien, bien sûr qu'on peut se donner la mort, hein, bon, il n'y a rien qui empêche. Enfin, on peut se donner la mort, on peut se faire euthanasier. Mais si on est chrétien, c'est vrai qu'il y a une question. Et en même temps, ça pose aussi la question de savoir, est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien, au sein d'une civilisation chrétienne, peut se comporter autrement devant des choses, des interdits aussi forts comme ne pas se donner la mort. Alors le corps du citoyen, le corps citoyen, puisque Mélenchon a commencé par la citoyenneté, le corps citoyen, il appartient à la nation, à l'État, ou est-ce que c'est vraiment une propriété individuelle stricto sensus pour Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué ces choses-là. On va en perdre son latin, mais c'est un débat. Et c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un débat qui paraît un peu vain, parce que ben, le Covid a liquidé tellement de gens qu'il en a euthanasie, hein, clairement. On s'est dit, peut-être c'est pas la peine, mais ouf, la question là, c'est pas l'eau qui peut nous aider. C'est vraiment la métaphysique. La métaphysique, a-t-on le droit de mettre fin à la vie de quelqu'un parce qu'il est devenu inutile à la société? Et qu'est-ce que la société? Est-ce que c'est une agrégation de personnes utiles? Et vous voyez, on revient à la question des discriminations, on revient à la question de l'injustice, on revient à la question de la justice sociale qui est posée. Et cette justice sociale, aux États-Unis en ce moment, on en parle beaucoup, de la justice sociale, pas de la justice sociale, de la justice tout court, parce que figurez-vous que l'injustice qu'il y avait entre les dirigeants et les dominés ou les administrés a retrouvé les dirigeants au sein des partis parce que la justice n'opère plus et que le juge Thomas, par exemple, qui est un juge de la Cour suprême, il a dû sortir, faire une petite sortie pour parler d'un amendement, tout simplement parce que après que la Géorgie ait donc changé son code électoral et que ben, il a et apporté des modifications. Parce qu'elle a vu qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, que la Cour suprême n'a pas voulu soulever, n'a même pas voulu regarder. Et donc, dans un sentiment de honte, bon, c'est pas étonnant qu'il s'appelle le juge Thomas, parce que vous savez, dans la Bible aussi, Thomas a cru seulement à la résurrection du Christ après qu'il l'ait vu. Je sais pas, il a vu les trous dans les mains. Et puis, il y a un jeu de mots aussi pervers là, on utilise ce prénom pour essayer de faire de la politique cynique, ben, ce qui n'a pas aussi échappé quand même à M. Biden, qui là, pour le coup, est quand même en train de réfléchir à la nécessité de limiter les mandats de ces juges de la Cour suprême, parce que au vu de ce qui s'est passé, il s'en doute très bien aussi que ben, voilà, ça peut lui arriver ou arriver à ses collègues de démocrates que la justice se taise de façon quand même irresponsable. Et donc, à ce moment-là, comment c'était, le présupposé, je veux dire, le préambule qui disait que ces juges-là étaient incorruptibles et c'est pour cela qu'ils avaient des mandats éternels, ça ne tient plus. Et puis, de toute façon, la question du mandat, hein, vous savez, il faut leur donner 9 ans, comme on donne ici au Conseil constitutionnel, et puis vous partez. Parce qu'après, c'est trop, vous ne pouvez pas être juge à la Cour suprême, juge à vie, et après, il y a des gros problèmes qui se posent, et vous n'intervenez même pas. Et cette démission de la justice, c'est aussi ça qui est recherché dans les programmes aujourd'hui des hommes politiques. Il faut qu'il y ait de la justice sociale, et c'est bien que ça rattrape les partis politiques là-bas dans leur house enfermé. Et en ce moment-là, house aux États-Unis, c'est barricadé, on passe plus, hein. Il y a c'est vraiment une honte, c'est comme s'ils étaient assiégés, mais tout simplement parce que ben, là où il n'y a pas un système coopératif, parce que c'est ça aussi qu'il faut mettre au crédit de Jean-Luc Mélenchon. Ce programme a été fait de manière coopérative, mais si c'est coopératif, ça ne veut pas non plus dire aussi qu'on prend que c'est un fourre-tout, mais ça veut dire aussi que on regarde les choses ensemble, on regarde ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour tous, et la justice, si la justice n'est pas rendue dans un pays, ben c'est foutu. Dont la question sociale qui annonce, ben, ça va être la question de la justice sociale. Oh, amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde de Lise Mock, je suis toujours à Yaoundé, et de toute façon, comme je vous ai dit, c'est pas lui ici, c'est Covid là-bas. J'attends un peu que les choses se calment par la grâce de Dieu, et si Dieu le veut bien, parce que moi aussi, dans l'histoire de la réalité augmentée, je vis aussi des choses d'une réalité vraiment, ce n'est plus augmentée, mais c'est surnaturel. J'ai rencontré tout ça dans un livre un jour. Comme publie ou pas, je le ferai moi-même. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut faire soi-même. Là, je le permets. Puisqu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de mérite. Il n'y a que la force qui s'impose parce qu'il n'y a plus d'intelligence. Et c'est en cela que le projet de Jean-Luc Mélenchon est révolutionnaire. Parce qu'il y aura de cette intelligence qui va être réinjectée. Dans sur la place publique. Et puis voilà, c'est comme ça que le progrès s'est toujours fait. Et c'est pas en neutralisant les intelligences, en les brimant, en les tuant, qu'on va avancer. La société les bloquer aussi. C'est pas seulement. Et d'ailleurs, elle est volontairement bloquée puisque les pandémies ont permis aux riches de devenir plus riches. Vous, vous restez à la maison, bien confinés. Et pendant ce temps-là, eux, ils font leur business en dormant. Vous savez que tout ce que Amazon, comme vous étiez confinés, vous commandez les bouquins, vous commandez les couches des enfants, vous commandez tout chez Amazon. Hein, les petits commerçants, les pauvres, ils ont fermé parce qu'il faut que vous ayez une autorisation d'ici ou de ça. Non, ça ne peut plus marcher. L'eau, à partir de l'eau, on va revisiter le capitalisme et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Amis de Radio Silence, c'était Flash sur le Monde, je vous l'aurais dit, par Élise Mbok pour Radio Silence, et je vous dis à bientôt.
Alléluia, Alléluia, na Yesu, ah, na pesa yonini, ayo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, Zambe nangai, Zambe nanguye uzala malamu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu.